Charles Asselineau, L'enfer du bibliophile. Chapitre 1, Le cas de conscience. Oui, l'enfer. N'est-ce pas toujours là qu'il faut en venir, tôt ou tard, dans cette vie ou dans l'autre? Ô vous tous qui avez placé vos joies dans des voluptés inconnues aux vulgaires. L'amoureux a l'indifférence, le joueur la pauvreté, l'ambitieux, l'impuissance, l'artiste, l'obscurité et l'envie, le paresseux, la famine, l'avare, la ruine et le gourmand, l'indigestion. Mais pourrait-il y avoir un enfer pour une innocente manie qui se repaît d'elle-même et qui tourne à l'honneur des lettres et de la patrie, en faisant subsister 4 ou 5 industries? Eh bien, je ne l'aurais pas cru. Il y en a un pourtant. Je le sais aujourd'hui car j'en reviens. Je suis celui qui revient de l'enfer du bibliophile. Me demanderez-vous pour quel péché l'on souffre? Je vous répondrai. Faisons de bonne foi notre examen de conscience. Et dites-moi s'il est une seule manie, même la plus innocente, qui ne les contienne tous. Cupidité, luxure, orgueil, avarice, oubli de devoir et mépris du prochain. Aussi voyez-les tous, ces picoreurs de fruits défendus. Interrogez leur œil au moment de la jouissance, et dites-moi s'il n'y a pas dans leur regard quelque chose de la passion du joueur et de la férocité du libertin. Observez seulement le mouvement de joie sauvage ou enfantine par lequel ils serrent dans leurs poches ou sous les bras l'objet longtemps convoité, et puis calculez l'effet d'une telle passion doublée, ne fût-ce que pendant un jour, de la puissance d'un Néron. Oh, je ne parle pas, bien entendu, de l'amateur indolent et riche qui ne chasse que par procuration et s'en remet pour ses acquisitions aux soins d'un bouquineur émérite auquel il donne carte blanche et qui le méprise. Oui, qui le méprise, comme le garde-chasse et le braconnier mépriseront toujours le maître lâche et maladroit qui triomphe par leur adresse. Ces beaux chasseurs de circonstances, savez-vous à quoi cela sert quand ils fêtent leur Saint-Hubert? C'est moi qui fournis la pitance. Ainsi parle le braconnier dans sa chanson de Pierre Dupont. Ainsi pense, soyez-en sûr, tout connaisseur qui fait lever le gibier littéraire pour le festin des traitants et des banquiers. Chapitre 2. Le péché. Je parle ici de l'amateur chasseur et chasseur actif, qui n'en se rapporte qu'à lui-même et pour qui le libraire expert est un ennemi naturel dont il se défie. Celui-ci, voyez-le au matin de chaque vacation d'une vente, retourner, ouvrir, feuilleter avec une curiosité fébrile chacun des volumes exposés. Rien ne lui échappe, ni une tache, ni une mouillure, pas même une simple piqûre, pas même un raccord dans le titre ou une rainure d'un demi-millimètre. Le libraire, chargé de la vente, le regarde avec mauvaise humeur, car il sait que de lui il n'y a pas de commission à attendre. Voilà le véritable amateur. Tel vous le retrouverez le soir à la vente, enveloppé dans son manteau, le collet relevé sur sa moustache, le chapeau rabattu sur son nez, caché dans un coin, et se dissimulant de son mieux pour ne pas éveiller l'attention de ses ennemis les libraires, car il sait qu'ils sont capables, par esprit de corps, de se coaliser pour lui enlever un volume. Le moment venu, il se faufile en se courbant derrière ses voisins et se glisse jusqu'à l'oreille du crieur auquel il souffle son enchère. Faudrait vue d'assez subtil pour se faire accompagner d'un ami inconnu qu'il place à quelques pas d'eux dans les rangs des acheteurs et auquel, le dos tourné au bureau, il transmet les signes convenus par leur volonté. Mais aussi, quel triomphe pour l'amateur, quand le volume poursuivi lui est adjugé. Avec quel orgueil il se redresse et rejette son manteau, en lançant un regard ironique au vendeur. On va payer. L'armateur véritable paie toujours, content, pour n'avoir aucune obligation en personne. Son compte fait et réglé, il met son emplette dans sa poche et s'en va fièrement, sans même porter la main à son chapeau. « Ah, le gaillard, c'était pour lui !» se dit le libraire qui le regarde partir avec envie. Jalousie légitime, car pour lui, l'amateur est pire qu'un ennemi, c'est un rival. Il connaît à fond la valeur des livres. Il a fait une longue étude des catalogues avec prix, dont il a chez lui toute une collection. Il sait à n'en point douter d'où provient tout exemplaire, mais sur table et à quel prix il a été successivement coté depuis 60 ans. C'est son plaisir de dévoiler toutes les petites ruses du catalogue. Tel volume est marqué comme provenant du cabinet du comte Doyle. C'est une erreur. L'exemplaire du comte Doyle m'a été acheté par un tel et revendu après la mort en 1800. Il appartient aujourd'hui à monsieur un tel. Celui-ci provient de la vente Aimé Martin, il est de condition bien inférieure. Du reste, cette inimitié de l'amateur et du libraire ne dure pas au-delà du champ clos de la vente publique. Dans sa boutique, le libraire est pour l'amateur plein de déférence et d'attention. Il le fait causer pour obtenir sur de lui des renseignements. On a vu des libraires assez consciencieux pour refuser le prix d'un livre suffisamment payé, disait-il, par les indications recueillies pendant une heure d'entretien. Chapitre 3. La damnation. Enfin, vouez-le sur les quais, notre amateur. Il sait et répète avec tout le monde depuis 20 ans que l'on ne trouve rien sur les quais. Mais il peut se faire qu'en 10 ans, une seule occasion se présente. Et cette occasion-là, il ne veut pas que d'autres que lui en profitent. Il a pour lui les autorités, Naudier et Parisson, par exemple, qui trouvèrent sur les quais du Le Marot d'Étienne Dolay et l'autre le César de Montaigne, payé à sa vente 1550 francs et qui lui avait coûté 18 sous. En général, l'amateur des quais est celui dont les manies sont les plus curieuses et les plus folâtres. Le client des ventes publiques et des libraires recherche et paie fort cher des livres parfaitement accrédités et cotés, de bonnes éditions des classiques, les Barbou, les Elzevir, etc., etc. Le client des quais s'est buté à une spécialité encore inconnue et qui fera fureur plus tard. Là se collectionnent les journaux, les revues, les brochures, les mémoires, les bribes négligées, et qui, au bout d'un certain temps, deviennent introuvables. Essayez de chercher telle gazette d'il y a seulement 20 ans. La bibliothèque impériale ne l'a pas ou ne l'a qu'incomplète. Si vous persistez dans vos recherches, un libraire vous dira quelque jour qu'il n'en existe qu'un exemplaire complet chez M. Attel, qu'il a acheté numéro par numéro sur les quais, pendant 10 ans. Aussi, l'amateur des quais est-il nécessairement un littérateur qui connaît son avenir. Riez tant que vous voudrez, en les voyant acheter des babioles dont vous ne voudriez pas pour rien. Il se console en disant lui-même, « Dans 10 ans, dans 20 ans, tu viendras me le demander à genoux, tu ne les auras pas. » C'est sur les quais que se forment les collections impossibles, que se ramassent les riens qui vaudront de l'or. Aussi, s'il ne faut à l'amateur ordinaire que de l'argent et du goût, et encore, chez plus d'un d'entre eux, le premier supplée le second, il faut à l'amateur des quais, généralement pauvre et sans crédit, outre une passion de fourmi, le génie d'un inventeur. Venez donc sur les quais. Vous n'y rencontrerez ni M. de Rothschild, ni M. Solard, mais vous y verrez par bonne fortune Philippe B., qui, par amour de l'antithèse, encadre son visage de 30 ans d'une chevelure de platine, collectionnant avec fureur les numéros épars des revues anglaises et américaines. Elle, le poète tragique, trottant comme un éléphant, armés en guerre, les bras chargés de curiosités inconcevables. C'est le peintre philosophe dont le cœur tressaille à la découverte d'un Enchiridion d'Épiquette. Ah, l'adorateur du romantisme qui ramasse jusqu'aux débris des vers de Petrus Borel et des vignettes de Nanteuil. Que de passion, que de folie, hélas, que je croyais innocente. Écoutez donc comment mon péché me fut révélé. Chapitre 4. Agonie. J'étais rentré ce soir-là chez moi, on ne peut plus mal disposer. Imaginez, tel que vous voudrez, des tribulations qui peuvent atteindre et blesser un homme de mon humeur et de ma profession. Un imprimeur avait tiré, sans mon avis, une feuille pleine de fautes. Le journal du soir m'avait montré mon dernier livre traîtreusement loué par un ami ironique, ou tout autre malheur aussi grave. Les éléments conspiraient ce soir-là contre moi avec les hommes. Une tempête de vent et de pluie faisait ruisseler mes vêtements. Je m'en revenais, barbotant et marmottant, navré, énervé, dégoûtant et dégoûté, une main sur mon chapeau pour l'empêcher de s'envoler, l'autre serrant mon pardessus sur ma poitrine. Jamais les 12 coups de minuit me sonnèrent d'une voix plus sinistre à l'horloge du palais des quatre nations. Rentré chez moi, je me dis, en mettant la tête sur l'oreiller, « Eh bien, je bouquinerai demain !» Et je m'endormis sur cette pensée consolatrice qui me faisait entrevoir les quais éclairés d'une lumière douce et gaie et les parapets émaillés de volumes de toutes couleurs. L'ouragan grondait toujours. L'averse fouettait de plus belle. Mais à cette heure, étendu chaudement entre mes draps et avec une telle perspective pour mon réveil, je pouvais en toute sûreté répéter les vers de Lucrèce. Fût-ce un rêve, je voudrais le croire, mais comment le pourrais-je? J'ai fait du rêve et de ses manifestations l'étude de toute ma vie, et je sais à n'en pouvoir douter que le rêve n'est ni allégorie, ni une fantasmagorie, mais un langage, par correspondance, signifiant les idées par leurs analogies naturelles, et les faits matériels par leur contraire. Si donc Dieu m'eût voulu punir de ma sensualité littéraire, de ma libricité, peut-être m'eût-il effrayé par l'image ou l'enfer des voluptueux qui, suivant Swedenborg, sont plongés les uns jusqu'à la ceinture, les autres jusqu'au menton, dans un lac fétide. Peut-être, s'il m'eût voulu convaincre de la vanité de mes plaisirs, m'eût-il représenté à moi-même, comme on voit les Allemands, au fameux chapitre des Allemands dans le monde spirituel, portant sous leurs bras des livres et répondant à quiconque les interroge sur leur foi, leurs idées, leurs conceptions philosophiques, en feuilletant un volume pour les y trouver. Ils expient ainsi leur dévotion immodérée pour la chose imprimée. Mais Dieu, à coup sûr, ne m'eût point soumis au supplice sans moralité et sans conclusion, que j'endurais pendant plusieurs heures. Et surtout, il n'eût pas envoyé l'étrange vieillard que j'aperçus tout à coup debout dans un coin de ma chambre et furetant avec des précautions de connaisseur dans les rayons de ma bibliothèque. Chapitre 5. Le vengeur céleste. C'était un homme grand et sec, au visage anguleux et froid, œil sournois, lèvres minces, vêtu d'une redingote à collet d'un vert grisâtre et coiffé d'un chapeau de forme élevée dont le bord entièrement incliné vers le nez attestait une politesse extrême ou une habituelle dissimulation. De son long doigt courbé en crochet, il attirait à lui chaque volume qu'il voulait voir. Il l'ouvrait, le retournait, et avec un sourire et de petites exclamations de dédain, le remettait en place. D'un bond, je fus auprès de lui. Je l'avais pris pour un voleur. Sous son regard, ma surprise et ma colère s'apaisèrent. par enchantement. J'aurais presque juré qu'il m'était connu. Mais où l'avais-je déjà vu? Quand était-ce la veille? Était-ce il y a 20 ans? Je ne savais. Mais je vous ai vu quelque part, lui dis-je. Parbleu, partout, me répondit-il en haussant les épaules. Il continuait son examen, toujours avec le même sourire, avec les mêmes « hum hum » poussés d'un ton blasé qui me déconcertait. J'avais machinalement commencé à m'habiller. Le jour gris et bas pouvait indiquer 7 heures du matin ou 5 heures du soir, nous étions dans l'équinoxe. Et d'où m'était venu le désir de m'aller promener avec cet étrange hôte? Je le saurais, je n'aurais pu le dire. Cette résolution m'était-elle soufflée et inspirée par lui? Je serais tenté de le croire, car à peine eus-je pris mon chapeau, qu'il tourna sur ses talons en sifflotant et prit de lui-même le chemin de la porte. Je le suivis. Sans dire un mot, mais nous entendant parfaitement, nous descendîmes vers le quai. Chapitre 6 Descensus Averni. La descente aux enfers. Les bouquinistes étaient à leur poste. Je les reconnus tous, les frères Gougis avec leur tournure martiale sous la blouse, Barbe d'or, la fleur des landes bretonnes, Lesné avec son air paterne, Malheureux, dont j'ai vu grisonner les cheveux jadis d'un si beau roux, Orly, sous Bridens, le centenaire affaissé sur sa chaise, etc. Les premières boîtes que nous visitâmes ne contenaient rien que d'insignifiant. C'étaient des collections dépareillées de divers recueils, quelques exemplaires des classiques anglais de Baudry et de la librairie à 1 franc. J'allais passer outre quand je me sentis arrêté par les bras de mon compagnon. « Achetez cela !» me dit-il en m'allongeant son doigt au milieu d'une case. C'étaient les 10 volumes de Paillot de Montalbert sur la peinture. Je fis à haut le corps en me tournant vers mon acolyte. « Achète cela !» répéta-t-il d'un ton bref en me regardant entre les 2 yeux. Je ne sais comment j'eus en ce moment la révélation d'un pouvoir absolu, cruel, épouvantable. Je baissai la tête, mes genoux fléchirent, et je payai. « Pourvu, disais-je en m'en allant courbé sous le fait, que je ne rencontre aucun de mes amis les bibliophiles. » Comment échapper au ridicule et justifier une accusation aussi insensée? Mais le traître ne me laissa pas longtemps à mes méditations. 2 pas plus loin, nous étions arrêtés devant une autre case où, parmi bon nombre d'inutilités, se trouvaient du moins quelques bons livres, certains recueils de pièces, par exemple, d'une condition médiocre, mais qui n'étaient point déshonorants. J'avais même avisé déjà un exemplaire des Poésies chrétiennes de Godot, quelque peu avarié et brûlé du soleil à la vérité, mais qui conservait néanmoins quelques traits de sa bonne typographie et de son frontispice gravé avec goût. « Voyez, dis-je à mon farouche compagnon en prenant le ton câlin d'un esclave qui veut fléchir le maître, voyez combien l'art récompense les moindres efforts vers le bien. Ce volume n'est point merveilleux, sans doute, mais sa justification est bien entendue, et c'est un artiste, certainement, qui a dessiné et composé ce frontispice. N'y a-t-il pas un grand respect de la poésie dans ces soins donnés à l'œuvre d'un poète, après tout bien inférieur? Mais au lieu du signe d'approbation que j'attendais, ou tout au moins du sourire, je ne reçus qu'un ordre bref et impérieux. « Achète cela !» me dit le démon en posant le doigt sur l'histoire de la restauration par Capefigue. Oh, je frémis. Et quoi, m'écriai-je éploré, acheter cela, et pourquoi? Et qu'en ferai-je, grand Dieu? Achète, répondit le démon, et ceci encore. Quoi, les œuvres mêlées et daignant de l'Académie française? Achète, et celui-là aussi. Oh oui, les études littéraires de Léon Tiessé. Achète et ne raisonne pas. Et les 12 volumes de Capefigue, d'Aignan et de Léon Tiessé, s'ajoutant aux 10 de Paillot de Montabert, arrondirent mes deux bras dans la proportion d'environ 500 feuillets imprimés. Chapitre 8. La Chiate ogni speranza. Tous les étalages du quai n'ont pas la même fortune. Il en est de riches et de pauvres, de plantureux et de stériles. Il en est qui toujours resplendissent de volumes neufs ou en bon état, de jour en jour renouvelés, et d'autres qui de mois en mois, d'année en année, étaient, pour le chagrin des yeux, les mêmes fils de papier vert moulu que le soleil déchaisse et que le vent pulvérise. Tel était celui que nous rencontrâmes après ces dernières emplettes. Une jachère, une lande, que nuançaient çà et là, de gris, de rose, des exemplaires éparpillés de l'annuaire du bureau des longitudes et de la collection des résumés historiques. Malgré ma fatigue et mon angoisse, j'eus un regard de compassion pour cette steppe désolée et pour le vieillard étique et souffreteux qui s'en était fait le gardien. Évidemment, cette déplorable monotonie défiait l'œil perçant de mon tourmenteur. Sa malice infernale devait expirer dans l'embarras du choix. Hélas, un bond terrible, un cri de joie sauvage m'apprirent que je m'étais trompé. « Achète tout !» me cria-t-il d'une voix éclatante. « Quoi ?» répondis-je en faiblissant. « Tout, tout, achète tout !» Le compte fait, à 25, à 20 et à 10 centimes par volume, le contenu des cases montait au prix de 60 ou 80 francs. « Mais je n'ai plus d'argent, murmurai-je. Donne ton adresse !» Et en poignant l'une après l'autre toutes les boîtes d'un geste vigoureux, il les empila sur ma tête. Quelle pouvait être ma figure en ce moment? Grotesque à coup sûr, lamentable peut-être. Le démon ne se tenait pas de joie. Il gambadait allègrement devant de moi et s'arrêtait de pas en pas pour me regarder, en se frottant violemment les mains entre les genoux. « Vous êtes fatigué, me dit-il, patience. À deux pas d'ici, vous êtes débarrassé. » Enfin. Chapitre 9. Deuxième cercle. Nous traversons le pont Neuf. Nous voici rue de la Monnaie. À la première maison de gauche, le démon m'entraîne et me pousse sur l'escalier. Deux étages et nous entrons dans un salon. Oh, ce salon, je le reconnais, c'est celui de L, le célèbre relieur, mon ouvrier ordinaire. À la vue de cette étrange cargaison, les yeux de L s'écarquillèrent. Le démon, placé derrière moi, me souffla ces paroles que je répétais sans en avoir conscience, comme s'il eût positivement parlé par ma bouche. « Voici une collection dont il faut me faire un train spécial. Ce sont des livres, de très bons livres, auxquels je sens beaucoup des... Je tiens beaucoup des raretés exquises que j'ai toujours recherchées. Reliures pleines, doublées de tabis, des dorures, des compartiments, des fleurons, des dentelles. » Faites travailler vos ouvriers nuit et jour. Oh, je paierai double s'il le faut, et sur livraison. » Elle, un peu rassurée par ce dernier mot, voulut entrer dans quelques détails. « Partons, me dit le démon en m'entraînant. Voilà qui est convenu, n'allons pas manquer la vente. » « Quelle vente ? » hasardai-je de lui demander quand nous fûmes dans la rue. « Et quoi, l'avez-vous oublié ? N'est-ce pas aujourd'hui le 10 avril, la 7e vacation de la vente de Monsieur X à la salle Sylvestre ? Oh Dieu, m'écriai-je, C'est pour cette vacation précisément que j'avais fait tant de croix sur mon catalogue. Et mon catalogue, je ne l'ai pas. Et où l'as-tu laissé? Sur mon bureau. Le démon rejeta en arrière son bras qui s'allongea à perte de vue et au bout d'une minute me rapporta mon catalogue ouvert à l'endroit marqué. Nous n'avions pas cessé de marcher. En approchant de la salle sylvestre, je remarquai plusieurs ombres qui s'envolaient au pas de course, les bras légèrement arrondis. « Oh, pourvu, dis-je, que le numéro 786 n'ait pas déjà été vendu. Pressons le pas, me dit le démon. » Chapitre 10, troisième cercle. La salle de vente présentait l'aspect accoutumé. Au bureau, un monsieur qui ressemblait à s'y méprendre, M. Delberg Cormon, commissaire-priseur, brandissait le maillet officiel, ayant à sa gauche un personnage qu'on aurait pu prendre pour M. Potier, dut aider sa redingote noisette qui faisait infraction aux habitudes sévères de l'honorable expert. L'assistance était nombreuse et choisie. Tous les mainteneurs de la librairie savante étaient là. Je les reconnus tous, Teschner, Delior, Bossange, Edwin Trauss, Kahn, le bouquiniste fashionable du passage des panoramas, Aubry, Parquet, Guillemot, France, Madame Hainaut, l'Amazone des tournois bibliophoresques. Durand, le rue Pourvoyeur et M. de Rothschild, Béni Duprat, etc., etc., recueillis comme pour une occasion solennelle. 12 francs, disait le crieur. 12 francs, mettons au-dessus. Serait-ce, je me penchai vers mon voisin. Adjugé, dit le commissaire-priseur, dont le coup de marteau m'alla au cœur. Et aussitôt l'expert annonça. Le numéro 786. Grâce à Dieu, j'étais arrivé à temps. Comme vous le pensez bien, je ne m'amusais point au feu de fil des enchères d'ouverture. Je laissais peloter, avant certaines parties, les indifférents, les oisifs et les avaricieux. En attendant l'instant de poser mes prétentions, je regardais courir de main en main le précieux petit volume. En ce moment, les douleurs, les fatigues, le cauchemar du quai étaient oubliés. Il n'y avait plus qu'un amant en béat en présence de l'objet qu'il va posséder tout à l'heure. « Oh, charmant petit livre, disais-je, petite Manon Lescaut, si bien imprimé par Didot en 1797. Béni soit l'amateur qui t'a si bien conservé, lavé, encollé, habillé de maroquin puce. Béni soit le relieur qui t'a relié. » Le laveur qui t'a lavé, l'encolleur qui t'a encollé. Quoi donc, me direz-vous, une Manon Lescaut imprimée il y a moins de 100 ans, est-ce là une si grande curiosité? Soit, mais d'abord, connaissez-vous bien cette édition délicieuse? Songez ensuite que l'exemplaire était sur papier vélin et qu'il contenait une triple suite des figures, avec la lettre, avant la lettre et après la lettre. Et puis le maroquin puce, en somme, c'était là un bijou assez convenable à ajouter à une collection des romans français et qui valait bien les 2 louis que je voulais lui donner pour rançon. Le livre mis sur table à 20 francs était redescendu à 12, puis remonté à 15, à 20, à 25. Le moment était venu, je me recueillis pour crier d'une voix claire « 30 francs !» Ô prodige ! Par ma bouche restée ouverte d'étonnement, ma voix, ma propre voix prononça distinctement « 50 francs !» Ma langue avait-elle fourché ? Était-ce bien moi qui avais parlé ? Mais presque aussitôt, à ma droite, le démon, auquel je ne prenais plus garde depuis un instant, répliqua « 60 francs !»« Quoi, misérable ? » murmurai-je. « Vous couvrez mon enchère ? » Et voilà que, sans effort de ma part, et même sans intention, ma voix à moi, profétera d'un ton ferme. 70. Je fis un effort violent pour désavouer cette enchère valacieuse, mais en vain. J'étais frappé de mutisme et d'immobilité. 80 francs, dit le démon en me regardant d'un air narquois. Et désormais, sans interruption, les deux enchères continuèrent de se poursuivre, le démon parlant tantôt avec sa voix, tantôt avec la mienne. 90, 100, 150, 200, 250, 300. En entendant ce prix exorbitant, les assistants les plus voisins de la table commencèrent à se passer le volume de main en main, espérant peut-être le trouver interfolié de billets de banque, comme était, dit-on, la fameuse Bible jadis léguée par le marquis de Chalabre à Mademoiselle Mars. Convaincu qu'il n'en était rien et que ce malheureux livre n'était rien de mieux qu'un assez joli exemplaire d'une édition après tout médiocrement rare, ils se rassirent et désormais assistèrent à cette lutte infernale dans l'épanouissement de curiosité de gens qui voient faire un bon tour de passe-passe ou qui se régalent d'une farce jouée par un bon acteur. Je voyais leurs yeux s'illuminer et leurs bouches reculer vers les oreilles à chaque nouvelle enchère poussée par l'habile ventriloque. À 400, 450, 500, 6, 7, 8, 9, 1000 francs, 1150, 1200. Ici, le démon s'essuya le front en affectant les dehors de la plus vivante agitation et articula doucement de sa voix qui le rendit faible comme celle d'un malade. 1350. Puis la mienne avec un éclat retentissant. 1500 francs. 1500 francs, dit le commissaire-priseur. On n'en veut plus à droite, il n'y a pas d'erreur, ajouta-t-il en me regardant d'un air gracieux. Adjugez à monsieur pour 1500 francs. Le démon feignit de se laisser tomber sur une chaise, qu'un de ses voisins lui céda aussitôt. Chapitre 11. Vertige. Le numéro suivant appelait un livre que je déteste, Les Contemporaines de Restif de la Bretonne. L'exemplaire, de condition plus qu'ordinaire, fut mis sur table à 40 francs. Que m'importait? Troublé jusqu'au fond de l'âme, anéanti, j'espérais du moins être quitte de cette mystification absurde qui venait de m'endetter de 3 mois au moins de mon revenu pour un caprice auquel je n'aurais pu raisonnablement sacrifier plus de 50 francs. Je me flattais même que ce nouvel aliment, jeté en pâture à l'émulation de mes voisins, détournerait de moi l'attention cruelle et la curiosité insolente dont j'étais l'objet. Mais, contre mon espoir, je voyais les mêmes regards ironiques attachés sur moi. Le prix des Contemporaines de Restif montait, montait, et toujours. Je m'aperçus alors que, depuis un moment, il ne restait plus pour cet odieux article que deux enchérisseurs, l'enchérisseur double de l'article précédent. Le vampire ventriloque continuait son jeu cruel et acquérait pour moi, malgré moi, en ajoutant à cette ironie le poids de ses enchères, le livre objet de mon aversion. À cette reprise d'extravagance, une joie immodérée s'empara de l'auditoire. Je voyais les têtes osciller et les ventres rebondir à faire éclater les vêtements. Le grave monsieur Julien riait aux larmes. Monsieur Guillemot pleurait dans son mouchoir. Aubry, l'ingrat, frappait à coups de poing sur la table. Monsieur Caen se balançait et sautait sur son siège en répétant les bons mots du café de foie. Seul monsieur Techner montrait sa belle âme en me regardant avec compassion. Et les Contemporaines de Restif me furent adjugées pour 1000 francs, aux éclats de rire et aux battements de ramin de l'assistance. Et jusqu'à la fin de la vente, je vis affluer devant moi les livres les plus ridicules, chèrement payés, au prix que je ne mettrais pas à mes plus fastueuses fantaisies. Lorsque la vacation fut déclarée close, la joie qui n'avait cessé de croître chez mes voisins tourna subitement à la folie. Je les vis tous se prendre les mains et former autour de moi une ronde grotesque, délirante, furieuse. Placé au milieu du cercle, à côté de moi, le démon, tournant lui-même sur lui-même comme un derviche, semblait, en agitant ses bras, régler la cadence et commander le mouvement. En ce moment, la parole me revint. « Par grâce, m'écriai-je, je n'en veux pas, je n'en veux pas. »« Là, ils sont à toi, » répondit le démon en s'arrêtant soudain. « Ils sont à toi, bien à toi. » « Mais, balbutiai-je, sans compter l'argent dépensé tantôt sur les quais, mais sans compter les mémoires des commandes faites de relieurs, me voici endetté de plus de 30 000 francs, mais où les prendrai-je ?»« Tu les paieras, » dit le démon. « Eh bien, tu vendras ta bibliothèque, ta petite, ta joie, ta jolie, ta charmante bibliothèque. » « Soyez convoqués tous, » ajouta-t-il en s'élançant sur la table et arrêtant la ronde d'un geste impérieux. « Soyez tous convoqués, nous vendons ici demain et jour suivant, jusqu'à ce que mort s'en suive, la bibliothèque d'un homme de lettres, une bibliothèque précieuse et choisie, une bibliothèque, messieurs, amassée pendant 20 ans au prix des plus constantes recherches, des trésors, des singularités, des trouvailles. » « Mais, » protestai-je, tandis que le discours se perdait dans les hurlements d'un public en délire, « mais ne fera pas 6 000 francs ?»« Monsieur, » me dit gravement le commissaire, à qui ces derniers mots rendirent tous en sérieux, « vous savez que nous répondons des deniers. Je ne vous quitte pas que vous n'ayez justifié des moyens de solder les acquisitions que vous venez de faire par mon ministère. » « Eh bien quoi ?» répliqua brutalement le démon. « N'as-tu pas des amis, des parents, une famille ? Ils se cotiseront pour acheter des mains des Marocains. Mais, » ajouta-t-il, « commençons par le plus sûr. Allez, sus à la bibliothèque !» Un hurrah sinistre lui répondit, et tous et moi-même, entraînés par le démon, nous nous précipitâmes hors de la salle. Chapitre 12. Le fond de l'abîme. La troupe traversa comme une nuée les quais et le pont des arts et s'abattit sur ma maison. Alors commença un saccage, une dévastation à faire frissonner l'âme de tout collectionneur. Une partie des libraires, dirigée par le démon, pénétra dans mon cabinet, ouvrit violemment mes armoires et jeta par brassée mes livres au reste de la bande demeurait dans la cour. Les livres tombaient comme pluie et s'écornaient sur les pavés, où les bandits, affolés comme une troupe d'écoliers, les ramassaient, les jetaient dans des paniers et les empilaient en dansant dessus comme font les vendangeurs dans la cuve. « Encore, encore !» criait le démon. « Et celui-ci, et celui-là, tous jusqu'au dernier !» « Et moi aussi !» m'écriai-je en m'élançant vers la fenêtre, mais le démon me retint. Quand le dernier volume tomba sur le pavé de la cour, je m'évanouis. Par un reste de pitié, les bourreaux me déshabillèrent et me placèrent dans mon lit. Chapitre 13. Résurrection. En rouvrant les yeux, j'aperçus près de moi Conrad G., un de mes meilleurs amis. « Oh !» lui dis-je. « Vous êtes bon, vous, mais vous arrivez trop tard. Ils m'ont tout pris. »« Trop tard ou trop tôt ?» répondit Conrad, qui se mit à entamer le récit de ses succès auprès d'une demoiselle Honora dont je n'ai jamais entendu parler. « Trop tard » repris-je. Mais je vous dis qu'elle est charmante, et je vais vous faire déjeuner avec elle aux Champs-Élysées. La voiture est en bas. Mais quoi, ne le saviez-vous pas? Et je commençais à lui raconter mon aventure. Mais lui se remit de plus belle à me parler de sa nouvelle connaissance. Et la conversation continua ainsi quelque temps parallèlement, moi parlant livres, ruines, etc. Et Conrad parlant Rodolpha, sans plus songer à mêler nos eaux que si nous étions été, lui en l'heure sur la Loire et moi la Vistule. À la fin, Conrad, frappé de mes affirmations, me pria d'être précis. J'entrepris alors de lui faire un peu moins longuement que je viens de l'écrire pour vous le récit de mes infortunes. Avant que j'eusse fini, Conrad me prit le bras. « Bon, vous avez la fièvre, me dit-il. Et tenez, il a venté et plu toute la nuit, et vous avez dormi la fenêtre ouverte. » Je restais comme hébété en apercevant sous les rideaux la fenêtre entrebâillée. L'eau avait ruisselé sur le tapis, et les livres, les papiers, le catalogue de la vente X avaient volé jusqu'au pied de mon lit. « Mais alors, dis-je en sautant sur mes pieds, d'un élan, je fus devant la bibliothèque, je l'ouvris d'un geste fou, tout y était en ordre. Je m'habillai prestement, et je montai en voiture avec Conrad. Je déjeunai avec lui et Mademoiselle Rodolpha. « Oh, c'est une personne fort comme il faut !»